Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Auditrice, auditeur, bonsoir. La dégradation de la situation sécuritaire dans les septentrions maliens, voilà le sujet que vous propose le Grand Dialogue de ce mardi. Pourquoi? Parce que les attaques ne cessent de se multiplier, ça et là, avec les assauts de plus en plus dangereux. La MINUSMA régulièrement attaquée, les checkpoints de l'armée malienne attaqués, des embuscades tendues, ça et là, la situation se dégrade presque tous les jours. Même ces derniers jours, il y a eu des cas de violence dans la région. Pourquoi tant de violence au moment où les uns et les autres insistent sur la nécessité de mettre rapidement en œuvre l'accord pour la paix? Pourquoi au moment où les groupes armés annoncent donc la reprise des travaux du comité de suivi de l'accord, on signale des affrontements entre groupes armés? Y a-t-il de part et d'autre une réelle volonté de faire bouger les lignes? Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles vont répondre nos invités qui sont au nombre de 4, en tout cas 3 pour l'instant. Boubacar Boukoum qui est analyste. Monsieur Boukoum, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Akatiebli Doumbia, qui est du Centre d'analyse politique et économique. Monsieur Doumbia, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons en ligne le socio. Nous avons en ligne Aloussen Aladi, lui, il est journaliste. Il est donc à Tombouctou sur place. Est attendu dans ce studio Mohamadou Djouara, qui est sociologue. Cette émission vous est présentée par Seydou Foma.
Le Grand Dialogue.
Auditrices, auditeurs, bienvenue. De plus en plus de violences au nord du Mali, même ce week-end, il y en a eu. Aloussène Aladi, vous qui êtes journaliste sur place à Tombouctou, le cycle de la violence, ça continue donc dans les septentrions?
Bonsoir, monsieur Fomba.
Oui, nous vous écoutons, Aloussène.
Bonsoir.
Le Mali est indivisible. Je veux l'application de la Chara, ok. Mais hier, c'est aussi celui qui est parti à la négociation de l'accord préliminaire de Ouagadougou. Hier, c'est aussi celui qui a signé à Ouagadougou la laïcité, le respect de la laïcité, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale. Alors, hier, c'est également celui qui a libéré près de 200 soldats maliens qui étaient en otage sans aucune condition, simplement remis au président du Haut Conseil islamique.
Mais décidément, il y a beaucoup de visages.
Non, c'est important de se rappeler parce que le discours public amène les gens à oublier certaines choses qui sont très importantes.
Tout à fait.
Donc moi, je dis, pourquoi devons-nous rendre non négociable quelqu'un qui a déjà fait preuve de bonne foi en libérant combien de centaines de nos combattants sans condition? Qui dit qu'il est malien et que le Mali est indivisible. Aujourd'hui, on peut garder les HCIA en mettant IAD de côté. On n'a rien fait parce que ce sont les mêmes qui sont IAD. Ça, c'est la première chose. La deuxième question que j'ai posée, pourquoi faut-il négocier avec lui? Il faut négocier avec IAD, non pas pour le bonheur de IAD. Il faut négocier avec IAD pour avoir la paix. Pourquoi? Parce que vous avez posé une question à mon collègue tout à l'heure.
Oui.
Est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas le combattre? Pour combattre quelqu'un, il faut déjà être sur le même terrain que lui. Le Mali n'est pas à Kidal. Le Mali n'est pas à Ber. Le Mali n'est pas dans les zones lointaines dans lesquelles il y a l'insécurité aujourd'hui. Parce que quand on a essayé d'aller à Kidal, il s'est passé ce qui s'est passé, vous le savez. Si nous arrivons à trouver que ceux qui ont signé la paix, à cela s'ajoutent ceux qui ont le contrôle de la situation militaire sur le terrain, on peut permettre aux populations sur le terrain d'avoir un répit de paix.
Donc, cette petite question, avant qu'on aille à la pause, négocier avec lui, et s'il lui faisait de la condition de sa négociation, le fait que le Mali devienne un pays islamiste...
C'est une condition non négociable. Le Mali l'a dit, on l'a signé, l'accord le dit, on ne reviendra pas dessus. Mm-hmm. Et je pense qu'Iyad a montré qu'il peut revenir là-dessus parce qu'il a accepté l'accord préliminaire de Ouagadougou qui dit que le Mali est un pays laïque, républicain, avec un multiculturalisme intégral. Et donc, je pense qu'il est possible qu'on négocie si c'est nécessaire. Voilà.
Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. La situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader dans les septentrions maliens, voilà le sujet que nous abordons donc dans cette émission, votre émission Le Grand Dialogue de ce mardi. Nous en parlons donc avec 4 invités. Alors, vous l'avez dit, il faut aller à à l'application de l'accord. Il faut que l'accord soit donc mis en œuvre. Il faut qu'on aille au cantonnement, il faut qu'on aille au désarmement. Mais tout cela, ça traîne. Le processus, quand même, semble être en panne parce que vous savez. Et puis, d'ailleurs, on va traîner avec le cantonnement, avec le désarmement. Je crois qu'il y a la possibilité que d'autres personnes au sein de la population s'arment. Et ce qui va constituer un nouveau danger. Mais imaginez que pendant tout ce temps, voilà, que il y a ce comité de suivi de l'accord, ce comité de suivi qui est resté quand même bloqué un bon bout de temps. Et on apprend d'ailleurs heureusement que la 9e réunion reprend, mais elle reprend sur le fond de
détention.
Voilà, fond de détention, merci beaucoup.
Non, vous savez, tout ce qu'on a comme mécanisme, c'est la communauté internationale. Vous savez, quand on nous laisse nous-mêmes dos à dos, on a des points de vue divergents. Maintenant, la communauté internationale, avec une ligne, amène tout le monde à converger sur un point bien donné. Effectivement, c'est la communauté internationale, à un moment donné, qui s'est égarée, qui ne comprenait pas dans quelle dimension la diplomatie malienne était en train de fonctionner, parce qu'on était incompris. Dès le départ, quand nous avons dit que Assia, MNLA et tout ça, c'était des djihadistes, c'était les mêmes gens, les gens ne nous avaient pas compris. Mais les dirigeants, aujourd'hui, ils comprennent. Ils nous donnent raison. Donc, ça veut dire que la configuration du conflit est telle que si les lignes ne sont pas bien dictées par la communauté internationale et qu'elles accompagnent sérieusement la ligne que l'État malien aura fixée, l'application devient difficile. Parce que quand vous parlez du DDR tout de suite, il parlait de Kidal, ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Maintenant, pour que l'armée malienne soit présente à Kidal, nous, en tant qu'armée nationale aujourd'hui, quand nous allons nous déployer à Kidal, qu'est-ce qui va être dit? Nous avons agressé, nous avons violé l'accord. Et c'est un conflit que nous allons créer. Mais si la communauté internationale décide aujourd'hui que l'armée malienne doit aller à Kidal et qu'on est escorté, installé, les gouverneurs sont installés et toutes les autorités sont installées, assistées par les Nations Unies, et que déjà les rebelles et les djihadistes sont dans leur retranchement, donc le problème ne se pose plus parce qu'on reconstitue un État. Mais si la MINUSMA ne se donne pas cette mission, parce que chaque fois qu'on les pose la question, ils disent que leur mandat, ils n'ont pas mandat pour aller faire la guerre. Donc ils stabilisent.